Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre, tous les mardis soirs en direct sur Prune. On est de retour pour une nouvelle semaine, avec moi l'équipe habituelle, Hugo est ici, comment vas-tu Hugo ?
Tu sais comment ça va ?
Ça va très bien.
Extrêmement bien. Très content de cette UFC 300, on va revenir dessus. Des belles surprises, des mauvaises aussi. Une mauvaise aussi, mais à part ça, ouais, c'était vraiment très bien.
Tu es de retour derrière les platines pour la régie. Exactement. Aujourd'hui. Voilà, Nora qui ne peut pas être présent avec nous malheureusement.
Beaucoup. Si elle nous écoute, tu nous manques beaucoup, Nora.
C'est ça. Il y a Lounis qui est en train de pleurer.
Je suis défait.
Évidemment.
Défait.
Comment tu vas, Lounis ?
Bah écoute, ça va très bien. Également, j'ai passé un très bon UFC 300, donc on aura l'occasion de s'étendre davantage dessus au cours de l'émission. Mais ouais, c'est une soirée plus que sympathique.
Donc voilà, vous avez déjà un petit peu fait le sommaire avant l'heure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler de MMA. Lors de la prochaine heure, donc installez-vous confortablement et voilà, tout simplement. Du coup, au sommaire, comme on l'a évoqué précédemment, l'UFC 300 évidemment, oui. Le gros événement qu'on a eu dans la nuit de samedi à dimanche, l'événement tant attendu, une des plus grosses cartes de l'histoire du MMA, si ce n'est la plus grosse, une carte qui a tenu toutes ses promesses, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Vous êtes prêts les gars ? Vous avez enfilé le costume là, ça y est, c'est...
On est prêts.
Voilà, les bandes sont enfilées parce que va y avoir du contenu à faire. Donc sans plus attendre, on va parler de l'UFC 300. Jingle. Hugo qui est pas prêt.
Ouais,
jingle.
Alors, non, on va parler de l'UFC 300. Voilà, ça va être super. Jingle.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Comme on l'a dit dans le sommaire, on va évidemment parler de l'UFC 300 qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis. Un événement donc qui a été extrêmement attendu par tous les fans, par tous les observateurs et même par les gens qui suivent le MMA de manière un petit peu plus lointaine, on va dire. Et que dire, à part que c'est un événement qui a tenu toutes ses promesses, voire plus, tout simplement.
Ouais. On s'attendait à certaines choses, on s'attendait à avoir des surprises, mais il y a certaines surprises qu'on ne s'attendait pas à avoir.
On va y revenir évidemment. Avant de commencer, de rentrer un petit peu dans le sujet, d'analyser combat par combat, les gars, je vais vous demander un petit peu votre mot. Voilà, si vous devez décrire un petit peu cet événement en un mot.
Bah. Moi, le premier qui me vient en tête, en fait, il colle surtout pour un combat, mais je pense qu'on pourrait le placer quasiment pour tout l'événement, hein, mais immortel.
Immortel. ça me semble pas mal aussi. On en reviendra, pas de spoil, on parlera un petit peu de ce combat.
On y reviendra, mais voilà.
Je pense que c'est celui qu'on va parler en premier, on est obligé. Hugo, ton mot pour cet événement ?
Spectaculaire, je dirais, je pense. Parce qu'on a
spectaculaire.
Est-ce qu'il y a eu un combat ennuyeux ou je dirais palpitant ? Je pense que
non, ils étaient tous, ils étaient tous très divertissants.
Il y avait toujours quelque chose à en tirer en fait, même si on n'a pas vraiment eu du spectacle. Je pense notamment à un combat qui n'était pas hyper spectaculaire, mais il y avait quand même des choses à en retirer. On va quand même avoir.
Je pense à qui ?
À Qatar Sterling.
Oui, c'est
moins divertissant que ça. Quoi,
ouais, c'est ça.
Mais disons, c'est un combat qui fait pour les puristes comme c'est nous, pour les passionnés.
Même pour les puristes comme nous, est-ce qu'on peut s'appeler des puristes ? Je pense. Hein.
Regarder.
Non mais enfin,
on
regarde des combats de grappling et on est content quoi.
Oui, donc, c'est ça. Donc bref, dans tous les cas, oui, on a eu une carte qui a dépassé nos espérances. Moi, à mon mot, ça va être historique. Historique, ouais, tout simplement, l'événement, l'UFC 300, on a eu des images qui, je pense, vont rester gravées dans la mémoire des fans pendant plusieurs années, plusieurs décennies, parce que c'était vraiment exceptionnel. Ouais. On a eu des combattants qui sont révélés, d'autres qui ont confirmé, d'autres qui ont déçu, enfin bref, on a eu des émotions, tout simplement, en fait, hein, durant cette UFC 300. Et bien, sans plus tarder, on va passer au premier combat. Est-ce que le premier combat, On fait Gaethje Holloway.
Est-ce que tu peux juste, oui, je pense que tu peux parler de Gaethje Holloway, voilà, le combat le plus spectaculaire de la soirée.
On va commencer par celui-là, comme ça, ce sera
Gaethje Holloway.
Est-ce que tu peux juste revenir sur les pronostics, s'il te plaît?
J'y reviendrai après, t'inquiète pas.
Okay.
Du coup, petite mise en contexte. Donc, la soirée jusqu'à ce combat se passe plutôt bien. Voilà, comme on l'a dit, plusieurs spectacles, plusieurs combats spectaculaires, des finitions, des décisions, tout ça. Jusqu'à là, la soirée, c'est une très bonne soirée.
Ah ouais.
Mais il reste trois combats. Il reste trois combats avant la fin et on se dit, c'est une très bonne soirée. Mais on est là, c'est l'UFC 300. Il manque cette étincelle, il manque ce spectacle, ce moment iconique, ouais, qui fera qu'on retiendra
ce truc
cette
de fou.
Exactement. C'est exactement ça. Et puis arrive du coup le combat entre Justin Gaethje et Max Holloway en poids léger pour la ceinture BMF, donc la Baddest Motherfucker, qui pourrait se traduire par la ceinture du plus gros bad boy de l'UFC, on va dire, du dur à cuire.
Alors non, je suis désolé, je suis en licence d'anglais et moi je l'aurais plutôt traduit comme la ceinture du
vilain petit canard.
Non, du plus mauvais
garnement de tout le roster.
Plus mauvais garnement, ça c'est pas mal ça.
Non mais voilà, en gros c'est pour la ceinture des durs à cuire, des bad boys, ouais, des mecs qui s'envoient, quoi, tout simplement. Et du coup, si vous avez écouté notre émission de la semaine passée, on faisait un petit peu nos pronostics, nos previews, on était un petit peu tous d'accord pour se dire que Justin Gaethje partait assez largement favori, oui, face à Max Holloway.
Clairement.
On promettait un petit peu l'enfer à Max Holloway parce qu'on connaît la puissance et l'intensité que peut mettre Justin Gaethje, sachant que Max Holloway, de base, vient d'une catégorie en dessous et la montée de poids peut parfois un petit peu jouer en défaveur du combattant.
Sachant que Justin Gaethje est... alors, j'étais pas très concentré quand tu as parlé, là. Est-ce que tu as dit que Justin Gaethje est probablement le plus gros, le plus puissant
en
lightweight ?
J'y viens, tout simplement. Mais du coup, oui, en plus, donc, il y a cette différentielle de poids qui peut jouer. Et en plus, Justin Gaethje, comme l'a dit Hugo, c'est un des mecs les plus puissants de sa catégorie, si ce n'est le plus puissant. Hein.
Ouais, tout en lightweight, simplement, je pense.
En termes de force brute, oui, je pense.
Voilà. C'est l'équivalent d'un bulldozer. Hein.
Voilà, c'est ça. Voilà donc le combat, et on a le premier round, et on se dit, premier round, Max Holloway quand même
Il s'en sort bien,
ah, ouais.
Il s'en sort, oui, bien, quoi, oui. Il prend le premier round,
ouais.
Arrive le deuxième round, rebelote Max Holloway.
Et puis premier round, Justin Gaethje qui commence à saigner.
Ouais,
oui,
c'est
il n'arrive
pas
souvent.
À la fin du premier round, il y a un truc exceptionnel, il y a Justin Gaethje qui essaye de mettre, je sais pas, je pense un coup au corps à Holloway, un truc comme ça, mais il se penche en avant vers Holloway. Holloway met un coup de pied retourné qui atterrit en plein sur le nez de Gaethje. Et on le voit, c'est le moment où la cloche sonne pour la fin du round, mais on le voit Gaethje qui titube un peu, qui est pas bien du tout. Et on voit début du deuxième round, il a le nez en sang, Justin Gaethje. Donc là, on se dit, ok, Holloway a pété le nez de Gaethje.
Là, on a commencé à se dire, j'étais avec Lounis, Aurélien n'était pas là.
Non.
mais avec Lounis, on a commencé à se dire, ah, c'est...
Il y a peut-être un...
Moi, j'ai commencé à me dire, oh putain, oh,
j'ai
peut-être pouvoir...
aussi vite, hein,
Moi, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir me saucer dans la prochaine émission du Bagarre Club, leur dire, je vous l'avais bien dit.
Du coup, le round 2 arrive, plus ou moins la même histoire. Max Holloway qui vraiment fait un combat parfait contre Holloway de A à Z, techniquement, tactiquement.
Holloway qui fait un combat parfait contre Gaethje, t'as dit Holloway contre Holloway.
Pardon, Holloway qui fait un combat parfait contre Gaethje, donc de A à Z, vraiment, il est venu avec un game plan qu'il a exécuté parfaitement. Round 3, pareil. Round 4, pareil. Round 5, pareil. On se dit, mais Max Holloway va gagner à la décision. Il est parti, là. Il maîtrise son game plan de
surtout
A à Z.
Surtout qu'en fait, il a déjà gagné le combat.
Ouais.
C'est ça qui rend l'issue encore plus dingue.
À ce moment-là, il prend peut-être 4 des 5 rounds.
Ouais.
C'est, voilà, à la fin du 5e round, il prend 4 des 5
minimum
rounds. Et Max Holloway, il est venu avec un game plan qu'il a respecté, qu'il a maîtrisé.
Il a été intelligent.
Pendant 24 minutes et 50 secondes. Et là, vous allez me dire, mais... Pourquoi c'est un combat, c'est 5 fois 5 minutes, c'est 25 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 dernières secondes? Eh bien, on va vous dire ça. Ce qui s'est passé, donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, Max Holloway, alors que Justin Gaethje tente un coup de pied en retour...
En espèce de salto avant.
Ouais, voilà.
Il fait son, comment dire, son coup signature qui est un espèce de, on va dire, une espèce de roulade où, enfin, bref, une espèce de roulade où il veut percuter son adversaire avec les jambes. C'est très particulier à dire,
voilà,
ça.
Voilà,
c'est
ça. Là, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est un peu n'importe quoi.
C'est un peu n'importe quoi.
C'est un peu
ça,
n'importe
l'est, hein, ça l'est.
Mais des fois, ça passe et c'est spectaculaire. Oui. Et là, le temps que Gaethje se relève, Holloway dit, bon, écoute, jusque-là, le combat, il est bien sympa, mais on se fait chier. Du coup, ce qu'il fait, c'est que Il dit à Geddy, viens.
Il reste 20 secondes.
10 secondes. Ouais, 10 secondes. 10 secondes, vraiment. Il dit, viens, on va au centre de la cage. Il reste 10 secondes. On éteint les cerveaux. Hop, on appuie sur le petit bouton off. Et juste, on s'envoie des patates.
Des parrains.
On réfléchit plus.
Il pointe le centre de l'octogone pour dire, allez, on reste ici, on bouge plus et on tabasse.
À ce moment-là, Max Holloway, contre toute attente, gagne le combat. Il le prend un risque.
C'est ce que tu disais tout à l'heure en off, où tu disais, il a dit, ok, bon bah, je t'ai mis 5-0 ou 4-1, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai gagné le combat. Bon, allez, celui qui gagne ça, il a tout gagné.
C'est ça. Et il fait ça contre, on le répète, un des mecs les plus puissants de la catégorie.
Probablement le plus gros puncher des poids légers, quoi, clairement.
Et pendant 10 secondes, les mecs, ils s'en envoient, ça finit pas. Ils réfléchissent plus, hein, vraiment, ils sont collés l'un contre l'autre. Et le plus impressionnant, c'est que pendant cette séquence, Holloway en prend très peu.
Il en prend, il a
vraiment des instincts, des esquives qui sont magnifiques. Pour le coup.
Mais Geddy n'en prend pas beaucoup. Et ça échange comme ça, à bâton rompu, vraiment. Il se lâche complètement.
Et arrive la dernière seconde. Holloway envoie une overhand qui vient toucher Geddy. Geddy tombe KO, net,
inerte,
à une seconde mort. De la fin.
C'était tellement brutal que même l'arbitre a sursauté au moment où Geddy est tombé par terre.
Je pense que c'est le moment, le plus incompréhensible. What the fuck.
Mais vraiment.
Iconique de l'histoire du MMA, ce qu'on a vu.
Ah ouais, je suis d'accord.
Honnêtement, il est dedans. Il est clairement sur le podium.
C'est pour ça que j'ai dit
Mais c'est un moment, en tout cas, oui, c'est clairement...
Faire ça à l'UFC 300. Oui, non,
clairement. Récemment, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un moment, comme tu as dit, aussi what the fuck et surtout aussi badass.
Peut-être le
vraiment c'est terrible.
Peut-être le il est très connu hein, mais peut-être le chaos de Leon Edwards sur Kamaru Usman une minute avant la fin du dernier round.
Aussi, c'était impressionnant,
vraiment légendaire pour le coup. Mais
c'était surtout un gros upset. Alors que là, Holloway c'était un upset aussi. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire c'est qu'il s'est pas fait dominer. Kamaru Usman contre Leon Edwards pour replacer un petit peu. Je vais essayer de faire très très vite parce que sinon ça va être terrible. Kamaru Usman contre Leon Edwards.
On l'a déjà parlé surtout.
C'était Kamaru Usman qui était champion extrêmement dominant, qui défonçait tout le monde.
Qui se prend un KO à la dernière minute alors qu'il gagnait le combat.
Voilà,
tout
contre Leon Edwards qui s'est fait dominer de A à Z. Là, Max Holloway, on le donnait perdant à la base assez largement. Et en fait, au final, il a gagné son combat très proprement. Et au dernier moment, alors qu'il gagne, je suis désolé, mais c'est un truc de fou.
C'est extraordinaire.
Il gagne le combat et il dit. Bon, non, j'ai envie de rigoler un petit peu. On va tout remettre en jeu.
C'était pour le titre du plus gros bad boy. Il s'est dit, gagner à la décision, ça fait pas bad boy comme ça.
Non, mais
il dit, on joue tout en 10 dernières secondes.
Mais ça aurait suffi.
Et voilà.
En gagnant cette ceinture, parce que battre Justin Gaethje en le démontant comme ça, en le brisant petit à petit sur 5 rounds, je suis désolé, il méritait le titre
de
Badass Motherfucker.
Oui, mais c'est pas un move de BMF. Ouais. C'est pas un truc que tu fais quand t'es un BMF. Quand t'es un BMF, c'est ce qu'il a fait.
C'est
tu te mets au milieu de l'octogone et que tu fais, vas-y, viens, on va rigoler.
C'est exactement ce qu'il a dit parce qu'on lui a demandé, pas nous précisément, malheureusement, mais il y a des journalistes qui lui ont demandé, qui ont dit, mais c'est pourquoi avoir fait ça? Et lui, il a dit, parce que c'est ce que font les BMF.
C'est ça.
Tout simplement.
C'est beau.
Max immortel, quoi. Vraiment.
Moi, je trouve ce qui rend sa performance encore un petit peu plus grande, c'est ce qui se passe après quand il fait l'interview. Ses premiers mots, c'est pour saluer son adversaire.
Vraiment, ses premiers mots.
Quelle classe.
Donc, ce n'est pas le baddest motherfucker. Il est trop gentil.
Non, mais justement, c'est ça qu'on aime bien. C'est quand c'est sur le ring, ça y va. Ouais. Et derrière, il y a un respect.
Il a toujours été admirable à ce niveau-là.
Et derrière, il y a l'image aussi qui est hyper marrante.
Bah, et puis, vas-y.
C'est qu'il va call out, donc il va provoquer Ilia Topuria, qui est le champion de la catégorie, donc Featherweight, donc poids plume, qui est la catégorie habituelle de Max Holloway. Et on voit le visage d'Ilia Topuria qui a l'air, apeuré.
C'est très bizarre.
Vis-à-vis des réactions, j'ai vu une réaction du public. Il faut savoir que quasiment tous les champions ou ex-champions de l'UFC étaient présents à cet événement. Valentina Shevchenko, il y avait Gilbert Burns, il y avait Dudricul Duplessis. Enfin, ils étaient tous présents. Et j'ai vu une vidéo passer donc sur leur parterre où on voit leur réaction au moment du chaos, mais ils se décomposent livides, comme si ils avaient vraiment, même dans tous les sparring, toutes les compétitions, toutes les choses qu'ils ont fait, ils avaient comme s'ils n'avaient jamais vu quelque chose de cette ampleur là. C'est vraiment un chaos spectaculaire à ce point là.
Et du coup, ouais, je pense qu'il y a Topuriac, quand il a vu ça, il avait l'air.
Oh merde,
il avait l'air dépité.
Il était livide, quoi. C'était vraiment.
C'est la mais... première fois que je vois ça.
Je reviens juste sur un truc que tu as dit où tu disais, oui, en dehors de la cage. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que Max Holloway vient de gagner la ceinture de BMF, donc qui est censé représenter un peu le mec le plus violent, le plus. Je pense qu'il y a une dimension un peu genre méchante, tu vois. Genre, il veut du mal à ses adversaires. Et comme t'as dit, à l'intérieur de l'octogone, c'est le BMF. Il a les plus mauvaises intentions possibles, mais à l'extérieur, il est adorable. Et d'ailleurs, ces trois némésis principales entre guillemets, donc Alexander Volkanovski, Dustin Poirier et
McGregor.
Bon, j'aurais plutôt dit Aldo.
Les deux principales, donc Dustin Poirier.
Principaux.
Les deux némésis, c'est une némésis.
Poirier n'est pas vraiment sa némésis. Hein.
Oui, bon, bref.
Enfin, ils sont déjà battus. Oui. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'UFC, où dans les catégories Feather et Light, souvent, il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de conflits. Bon, en fait, Max Holloway, tout le monde le kiffe.
Oui, c'est vrai.
Et il y a une vidéo de Volkanovski, donc qui l'a battu
trois fois. Ouais.
Volkanovski qui a battu trois fois, dont deux fois où c'était vraiment écrasant. Il était hyper content.
Mais
de toute façon, Max Holloway et Volkanovski s'adorent. C'est juste qu'ils sont tombés dans la même catégorie et ça les fait chier parce qu'ils doivent se battre, mais ils n'ont pas envie de se battre.
Moi, je vais revenir sur la chose la plus exceptionnelle qui va découler un petit peu de ce chaos. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire ici dans cette émission. Hugo, tu avais raison.
Oui.
explique un petit peu parce que là les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière ne comprennent pas.
Parce que la semaine dernière, on a fait notre émission un petit peu pronostic preview des événements et Hugo avait parié KO de Max Holloway 5e round avec Looney sans... Non mais ça arrivera pas, arrête.
Oui, ah ouais. Vraiment,
c'est arrivé.
Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière, vraiment, j'étais seul face au reste du monde. Looney et Aurel me disaient j'aime bien dire ça parce que, et pour le coup, on se moquait de moi, mais j'avais raison. J'aime bien dire que tout est possible, mais littéralement tout. C'est-à-dire que là, Aurel et Lounis pensaient que c'était impossible que Max Holloway mette KO qui que ce soit en lightweight et encore plus
pas
Justin Gaethje.
Pas qui que ce soit, mais surtout Justin Gaethje.
Justin Gaethje. Et en fait, moi j'ai dit, non mais il y a une probabilité, elle est très faible, mais il y a une probabilité. Et vous me disiez, enfin elle est tellement faible que ça sert à rien d'en parler, etc. Et au final, putain, attends.
Non mais...
Je savoure un petit peu là.
Ouais, vas-y,
ah là là, c'est exceptionnel. Mais voilà, donc mes pronos sont pas toujours bons en plus parce que je me laisse souvent emporter parce que j'ai envie qu'il se passe par rapport à ce que je pense qu'il va se passer. Et là, les deux ont concordé et c'est exceptionnel quoi.
Donc voilà du coup ce qu'on pouvait dire sur le combat entre Justin Gaethje et Max Holloway. On a eu un moment iconique, tout simplement. Iconique, historique, légendaire,
inattendu.
Mettez tous les qualificatifs que vous voulez, mais voilà.
Et je pense que ça va rester pendant longtemps ce qu'on appelle un highlight, c'est-à-dire un moment marquant de l'UFC. Je pense que ça va le rester pendant pratiquement les 10-15 prochaines années.
Il commence à les collectionner, Max Holloway.
Les moments highlight. Ce qui nous amène à nous poser la question, Max Holloway a-t-il découvert qu'il avait le KO power?
Parce que son dernier combat, c'est contre Corran Zombie, il le met KO un peu de la même manière sur une overhand qui vient toucher à...
C'est une situation un peu particulière parce que le Corran Zombie, normal, n'aurait pas le niveau... Enfin, on ne l'aurait jamais mis contre Holloway parce que Holloway est le champion sans couronne de la catégorie featherweight. Normalement, Corian Zombie, il ne fait pas un combat contre Holloway. C'était son dernier combat de retraite, donc je pense qu'ils ont voulu lui mettre un combattant un peu hype, et en fait, il s'est fait défoncer, mais on s'y attendait tous. C'était pas une surprise.
Bref, Justin Gaethje, Max Holloway, voilà. Combat légendaire. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Même refaites-vous les 10 dernières secondes, franchement.
Même sans regarder tout le combat, juste les 10 dernières secondes sont hallucinantes.
Vous allez les trouver sur YouTube, peu importe où, c'est partout. Ça tourne partout en ce moment.
Ouais. Bon, merci. C'était l'émission du Blagueur Club. On se retrouve la semaine prochaine.
Voilà. Avant de se faire une petite pause, on va pas attaquer sur le main event parce qu'on va avoir des choses à dire aussi. Oui. Est-ce qu'on se fait un petit combat comme ça, des prélims par exemple.
Qu'est-ce qui vous a... Ah ouais, T'allais dire quoi? T'allais dire Yeri Prochka?
Bien sûr, tout de même.
Combattant préféré de Lounis,
oui,
on le rappelle.
Oui, mon chouchou, voilà. Yeri Prochka.
Vas-y, Lounis, introduis-nous un petit peu ce combat.
Yeri Prochka, donc ex-champion des poids lourds légers de l'UFC, connu pour son style extrêmement particulier où il a pas de garde, il avance, il crée une pression perpétuelle sur son adversaire et il déchaîne pour la foudre dès qu'il voit une ouverture, en tout cas dès qu'il sent le sang. Et en face de lui, Alexander Rakic, donc qui est quand même un lourd léger plutôt tout ce qu'il y a de plus correct, hein. Bon, malgré sa défaite récente contre Jan Blachowicz, il a quand même un sacré pédigré, plusieurs KO assez marquants. Donc, moi j'avais confiance en Yiri Prochka, mais d'un autre côté, du fait que Yiri ne mette absolument pas de garde, je me disais un front kick, un crochet bien placé, et à tout moment, Rakic pouvait le mettre knockdown. Et pendant le tout premier round, ça s'est confirmé parce que donc Rakic frappait vraiment, laminer complètement la jambe de Yiri Prochka de sorte à le déséquilibrer et à lui enlever ses appuis. Et Yiri avait un peu du mal justement à trouver son rythme et à réussir à bien le connecter. Le deuxième round commence et Yiri a senti le sang au bout d'un moment. Il a touché Rakic avec un jab. Il a vu que son adversaire était sonné, mais vraiment pendant un dixième de seconde. Et il s'est rué dessus comme un requin à l'odeur du sang. Quoi. C'était, et donc,
il lui a cassé
la gueule. Il s'est jeté sur lui sans garde, sans quoi que ce soit. Il a envoyé uppercut, crochet, genou. Il a complètement terrassé une fois au sol et je crois qu'à un moment donné il a essayé justement de lui prendre le bras pour peut-être essayer une kimura et puis en fait il s'est dit non, c'est trop technique.
Il s'est rappelé que c'était Yiri Prochka et pas Charles Oliveira.
Voilà, donc en fait il l'a laminé de coups et il est sorti victorieux de ce combat, même si ça confirme
en danger plusieurs fois par contre.
Voilà, même si ça confirme les craintes qu'on a vis-à-vis d'Yiri, il n'a aucune défense.
Après, j'ai envie de dire, c'est son style aussi. C'est...
Bien sûr.
En fait, s'il changerait quelque chose à ça, ce serait plus pareil.
Ce serait moins excitant.
Est-ce qu'il serait aussi fort, même sans être moins excitant, est-ce que lui, en fait, ça minimiserait ses propres qualités? En fait, Yiri fait le choix de maximiser ses forces et accepter en fait ses défauts.
Oui.
Et c'est ça qui fait vraiment que
il combat comme dans Dark Souls en fait.
Non,
minimum de santé, maximum de
ouais, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout qu'il a il se fie vraiment à ses esquives et à son menton, parce que pour le coup, il a vraiment un menton en acier quand on voit les coups qu'il encaisse.
Et je me dis excuse-moi,
mais juste pour terminer, donc vis-à-vis d'Iri, ça marche contre un Rakic, contre un Jan Blachowicz probablement, contre la plupart des combattants lourds légers. Ça marche pas contre un Alex Pereira et on développera pourquoi lorsqu'on abordera le sujet du combat principal, quoi.
Mais ouais, juste, je pense que ça ferait pas de mal de travailler un peu la défense, de trouver. Je pense qu'il doit y avoir moyen. Je suis pas entraîneur de MMA, donc c'est ce que je dis a des limites. Mais je pense qu'il doit y avoir un moyen de d'augmenter un peu sa stat de défense.
Non, mais
je pense qu'il y a moyen de travailler la défense pour être un peu moins en danger, parce qu'il a été en danger plusieurs fois.
On
a eu peur plusieurs
fois.
Mais voilà.
Donc voilà, du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur le combat d'Yiri.
Est-ce qu'on fait une petite description rapide des autres combats
On le fera plus tard, je pense qu'on va avoir le temps. Ouais, on va déjà faire une première petite pause musicale, je pense. On va s'écouter Affirmative Action de Nas featuring Supreme MTM.
Bah, okay.
Donc on s'écoute ça et on revient juste après.
Ok.
À tout de suite.
Bah, c'est parti.
Yeah. Affirmative action, yeah, with my crew, NTM, this is Nas Escobar.
Yeah, international remix, check the lyrics.
Chacun sa mafia,
chacun sa mifa.
Come, baby, come, wicked nigga.
Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch mines and I'll react like a rock baller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint. Catch them in break. Undress them time with tape. No escape. The Corleone, Fettuccine, Capone. Roam in your own zone again. Kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn. The firm are the wars unknown. Lower your tone. Face it. Homicide cases get thrown. Aristocrats. Politic and deli with diplomats. See me, I'm an official Mac. Lex, coupe, triple black.
Pas de Don Corleone dans mon quartier, mec. Si tu déconnes jusqu'au bout, faudra jouer les bonhommes. Y'a plus de place pour les rêves. Et c'est quand quand on s'élève, les rageurs te jettent l'œil et même les anges te crèvent. Sache que l'union fait la force, mais que la misère la dévise. Et qu'en période de crise, chacun met sur son baiser. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Même l'État fonctionne comme ça, que de la gouille m'a déguisé en secret d'État.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia.
Nas with MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes. We lust papes and push cakes inside the casket at Just Wait. It's sickening. He just finished bitten upstate. And now the projects is talking that somebody gotta dash it. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. My man Smoke knew how to expand coke. And Mr. Coffee, feds cost me $2 million to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice or hellfire can't scorch me. Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars, moving cars, your top poppy senior Escobar.
Pour tous mes vips, le balance avec mes tripes. J'appelais créer nos affects. Cherche pas rien, même plus rien qui nous implique. Même la vie nous tient à bout de bras. On œuvre dans l'ombre, ayant conscience de notre force. La force du nombre, c'est comme ça qu'on brille. Là, ces putains de sociétés parallèles. On a le vent dans le dos, prêt à voler nos propres ailes. Chez moi, y'a pas le trompa. Non, y'a pas de place pour tout ça. Dans mon quartier, mon gars, j'ai vu des gosses qui se bousillent en bas.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui, ça se passe comme ça.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia.
With MTM, yo, the firm connect.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui, ça se passe comme ça.
The fuck, baby.
Chacun sa mafia.
With MTM, yo, the firm connect.
The fuck, baby. Volume 1.
Attends, je mets la virgule.
Bagarre.
Bon, on n'est pas concentré aujourd'hui. Non, mais on discute. Ça arrive à la fin. Ouais, fait... Attends, c'est fini. Là.
On était en train de parler de Max Holloway.
Non, mais c'est bon. Après cet UFC 300, je pense qu'on a le droit de se lâcher un petit peu.
Désolé pour ce petit contre-temps.
Ah oui, on s'excuse.
Ah non, mais vous voyez, c'est à la bonne franquette ici. Hein. On pose les pieds sur la table et on discute. Donc voilà, on est de retour du coup en direct sur Prune.
Sur Prune.
J'espère que vous passez une bonne soirée. On va continuer du coup la suite de ces débriefs de l'UFC 300. On a parlé de l'iconique Max Holloway, on a parlé du samouraï Jiří Prochka. On parle du main event, la statue de pierre Alex Pereira, le mastodonte, tout ce qu'on
le
veut.
Le Thanos de l'UFC.
Le Thanos de l'UFC.
Puis-je ?
Tu veux y aller ?
Vas-y, hein.
Vas-y, oui, allez, j'ai Holloway, Looney, ça fait Jiří, vas-y, on te laisse Alex.
Alors, moi Alex Pereira déjà je l'aime beaucoup. Et Jamal Hill, je l'aime pas du tout. Pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, Jamal Hill, je ne le supporte pas. Pourquoi ? Je sais pas vraiment, juste il m'énerve. Notamment parce que il a dit qu'il était champion et que personne lui arrivait à la cheville alors qu'il a combattu personne de très... Bon, voilà. Il a gagné la ceinture face à Glover Teixeira, 42 ans, je crois.
75, je crois.
Non, 40, on parlait 40, mieux 42, de Glover. Ans, parlait mieux
Glover Teixeira qui... Alors attends, il faut rendre à César ce qui est à César. Glover Teixeira qui est probablement l'homme le plus fort de 42 ans sur cette planète, je pense. Il est très fort, mais il est quand même vieillissant, donc il partait avec pas mal de désavantages. Pour revenir à Alex Pereira face à Jamal Hill, moi je n'attendais qu'une chose, c'était qu'Alex Pereira règle ça rapidement et qu'il fasse taire Jamal Hill qui faisait beaucoup trop le show à mon goût et qui n'a aucun charisme. Pas à mon goût, c'est la vérité. Et donc le combat a commencé assez normalement, ça se jauge, c'était assez calme. C'était très calme même.
Bon, Jamal Hill qui justement envoie pas mal de low kick et de jab comme ça pour essayer de tenir Pereira à distance. Pereira qui le jauge et qui répond très très peu en fait pendant la
voilà,
première partie grande.
Qui a vraiment envoyé peu de frappes. Attends, je suis en train de regarder les statistiques. 24 frappes significatives
oui, mais
envoyées.
C'est parce qu'il y a tous les coups à la fin pour le mettre KO.
Il lui en a mis
Ah oui, il y en a eu quelques-uns après, hein, avant que l'arbitre s'arrête, je crois.
Ah, je m'en rappelle.
Des
bah, je crois que c'est ça. Hein. Dana White, non, Joe Rogan a dit à la fin, oh, le premier coup que tu as envoyé. Donc oui. Si je me rappelle bien, Alex Pereira a juste jaugé Jamal Hill pendant 2 minutes 30. Et juste, il le lâchait pas, il s'avançait, et Jamal Hill, il envoyait, mais voilà. Et en fait, Jamal Hill envoie un coup de pied dans la coque d'Alex Pereira, donc dans les parties génitales. Et du coup, l'arbitre qui voit ce coup-là s'interpose entre les deux combattants pour faire une pause pour qu'Alex Pereira récupère. Surtout que, enfin, quand tu prends un coup de pied dans les parties de la part d'un lourd léger, tu fais pas le fier, tu vois. Et Alex Pereira ne lâche pas Jamal Hill des yeux et avec sa main fait signe à Herb Dean, donc l'arbitre, de reculer. Voilà. Et donc Herb Dean qui arrive là pour interrompre les deux, pour faire récupérer Alex Pereira, il voit juste Alex Pereira qui fait non, recule. Il lui dit rien, il le regarde pas, il fait juste
j'ai un truc à terminer, attends 2 minutes.
C'est ça, il dit non mais voilà, on va y revenir.
Laisse-moi
après.
Laisse-moi faire.
Et là, 3 secondes après, il envoie un crochet du gauche, là c'est le coup signature d'Alex Pereira, voilà. Qui a mis KO un nombre incalculable de personnes. Il envoie un gigantesque crochet du gauche sur Jamal Hill qui s'effondre par terre. Et là, dans le petit appartement d'Hugo, Lounis et Hugo se lèvent en criant. Et voilà. Et c'était. Et il a mis KO Jamal Hill.
Et puis la réaction un peu, on va dire, moqueuse qu'il a eu après, ah, tellement drôle, vrai. Venant d'Alex Pereira, qui est donc un combattant qui parle très très peu et qui est pas du tout. Pas quelqu'un de très loquace. Et justement, vraiment pas le genre de combattant à faire le fier quand il a mis KO quelqu'un. Mais là, vraiment, je vous invite à aller la regarder sur Google ou sur YouTube. Mais vraiment, la réaction qu'il a est tellement drôle. Où il hausse ses épaules, l'air de dire « Attends, c'est tout ce que t'as à me proposer. »
Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas match. Et en effet, quand on regarde le combat, il n'y avait pas match. T'as vraiment l'impression qu'il a joué avec son petit frère. Quoi.
C'est pas le même niveau.
On dirait vraiment qu'il joue à la bagarre avec son petit frère et qu'il a pris un coup un peu trop fort et qu'il a fait bon allez, va falloir que je lui montre qui est le patron, et il lui a montré qui était le patron. Et là il a montré que, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a à prouver encore à Alex Pereira en light heavyweight? Je veux dire, il a battu les deux champions de la catégorie.
Ankalaev quand même, un gros lutteur.
Ankalaev, mais à part Ankalaev.
Mais à part ça, oui, il y aura
peut-être une revanche contre Thierry éventuellement, mais Yeri, je ne sens pas motivé.
J'aime beaucoup Yeri Prochka, c'est un de mes combattants préférés. Qu'est-ce que Yeri Prochka peut faire contre Alex Pereira?
Le problème de Yeri Prochka, c'est que le premier round contre Alex Pereira, il domine Alex Pereira. Il met plus de coups, il touche plus. Le problème, c'est qu'en fait, vu que Yeri n'a pas de défense, il va prendre un KO dans le combat.
Ça va être la même issue.
Et c'est ce qui est arrivé lors du premier combat. C'est ce qui arrivera probablement lors du deuxième. À moins que Yeri Prochka mette KO avant Alex Pereira.
Je pense pas que ça arrivera, mais voir. Hein, je sais qu'il y a des discussions, il y a des débats comme ça sur les réseaux sociaux, mais voir un Alex Pereira monter en chez les poids lourds pour affronter Aspinall ou Cyril Gann, ce serait très très drôle.
Non, Cyril Gann ne le prendra pas.
Bah j'en sais rien peut-être, mais en tout cas ce serait, je pense pas que ça arrivera, mais s'il devient champion des poids lourds, mais faites une statue à son nom.
Rappelons que personne n'a jamais été triple champion à l'UFC, mais d'ailleurs personne n'a jamais été triple champion dans une organisation majeure. Comment il s'appelle, Saladin Parnasse, j'ai oublié le nom de Saladin Parnasse.
Il est double champion, non, triple.
Saladin Parnasse est double champion, et il a eu un title shot pour une troisième ceinture.
Après, honnêtement, KSW, tout ça, c'est sympa, super. Bah,
C'est la plus grosse organisation européenne.
Oui, ok, je
suis désolé, on peut pas considérer le KSW comme
l'UFC.
Je pense que
évidemment,
c'est un accomplissement plus important d'être champion simple à l'UFC que d'être triple champion au KSW.
Je suis d'accord. Ça se vaut, je pense. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas moyen de quantifier ça.
Oui, évidemment.
C'est des estimations assez subjectives.
Revenons à Alex Pereira.
Bon voilà, Alex Pereira, un monstre, hein, comme d'habitude. Il a battu les trois derniers champions de la catégorie, puisqu'il a battu Jan Blachowicz.
Ce qui est drôle aussi.
Il a battu Jan Blachowicz.
4 du coup, parce qu'il y a Glover Teixeira. Ah non, il a pas.
C'est son entraîneur. Aurélien. Je pense que l'UFC, enfin, c'est quand même un autre niveau. Voilà. Moi, je suis pas. Je me perds dans ma blague.
Pour revenir à justement...
T'es un connaisseur, hein, toi.
À Glover, c'est marrant parce que donc Glover Teixeira, qui est l'entraîneur d'Alex Pereira, a perdu donc, sa ceinture des poids lourds légers face à deux combattants qui sont donc Iri Prochazka et Jamal Hill. Et vraiment, Pereira, il est monté en lourd léger, il a fait « Bon, j'ai deux, trois comptes à régler, après je pourrais m'abuser », donc il est allé. Juste pour montrer qu'il avait sa place chez les lourds légers, il a éliminé Jan Błachowicz, puis après il a mis KO Iri et Jamal Hill. C'est comme s'il réglait les comptes de son, comment dire, de son père spirituel. Et puis après, il peut vraiment s'amuser, quoi.
C'est ça. Non mais, voilà, l'histoire d'Alex Pereira, elle est complètement dingue.
Ouais, vraiment, elle est dingue.
On reviendra là-dessus.
Ouais, ouais. Faudra faire quelque chose à propos de ça.
Une chronique mythique.
Exactement. Ouais. Voilà, du coup, pour le main event de cette UFC 300. On se fait un petit dernier combat avant la pause, avant la deuxième pause. On se fait l'autre Brésilien, Charles Oliveira.
Il faut le faire.
Hein. Il faut le faire. Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, du coup, qui était le deuxième combat de la carte principale. Deux des combattants, on l'avait dit, c'était un petit peu peut-être une petite passe d'armes entre la nouvelle génération Arman Tsarukyan et l'ancien champion de Charles Oliveira. Victoire d'Arman Tsarukyan à la décision au terme d'un combat très compétitif, très équilibré.
Oui, c'était vraiment décision partagée.
Décision partagée. Donc c'était vraiment.
C'était du très haut niveau. Ouais. Franchement, on a eu du très très gros MMA au sol principalement, mais il y a eu quelques phases debout aussi.
Ouais.
Qui veut se lancer un petit peu sur ce combat?
Bon, je pense que l'honneur est à Hugo. Hein.
Hugo, vas-y, souffre un petit peu.
Non, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce combat. Bon, évidemment, je suis déçu que Charles ait perdu. Moi, j'espérais vraiment qu'il gagne et qu'il finisse Arman Tsarukyan pour avoir sa revanche face à Makhachev. Je fais pas encore une croix dessus. Je pense que il peut revenir encore parce que là, il a vraiment pas paru mauvais face à Tsarukyan. Je pense que c'est des problèmes de choix durant le combat plutôt que des problèmes de niveau. Voilà. Je sais pas s'il l'a sous-estimé ou quoi. Je pense aussi que le fait que c'était en 3 rounds à jouer.
Et pas en 5.
Voilà. Je pense qu'en 5 rounds, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Arman Tsarukyan. Et je pense que Charles se serait imposé. Après, je pensais qu'il allait s'imposer
Il manque quand même de soumettre Tsarukyan dès le premier round. Hein.
Il l'a fait deux fois. Une fois au premier, une fois au troisième.
C'est monstrueux tout de même.
Et il est vraiment pas passé loin sur les deux.
De toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois, le MMA à très haut niveau, ça se joue à des petits détails, une prise de soumission qui est pas parfaitement dans le bon angle, des choses comme ça. On peut souligner aussi la résistance d'Arman Tsarukyan. Je pense que beaucoup auraient tapé dans la situation dans laquelle il était.
Oui, je pense. Il a vraiment une résilience.
C'était assez impressionnant.
Dans tous les cas, maintenant, on voit un Arman Tsarukyan qui a le niveau d'un Charles Oliveira. On va voir ce que ça va donner contre Islam Makhachev, parce que ce sera son prochain rendez-vous à tout casser.
Probablement,
Dustin. Attends. On en parlera. Contre Makhachev ou Dustin Poirier, on en reparlera.
C'est ça, tout à fait. Voilà, défaite malheureusement pour Hugo de Charles Oliveira. Moi, je me dis, bon, j'aime bien Charles Oliveira aussi, mais bon, si on peut faire un petit peu de sang frais, de sa roue.
Je suis désolé, Lounis, je te laisse la parole après. Tu es en train de me dire que tu préfères voir un combat entre Makhachev et Tsarukyan plutôt que entre la revanche Oliveira-Makhachev?
Moi, je préfère voir les deux meilleurs s'affronter. Il se trouve que Tsarukyan a été meilleur.
Oh, il est insupportable.
Il a raison. Hein.
Oh.
Mais
moi, je m'en fiche. J'ai pas de combattant préféré. Je veux juste voir les meilleurs s'affronter.
Je te rejoins un peu, Aurel, mais... comment dire, la perspective d'un Oliveira vraiment préparé, pas du tout intimidé, qui affronterait du coup Makhachev pour une revanche, ça m'intéresse énormément.
Voilà.
Mais je sais pas si cette revanche aura lieu en fait.
Aurel, t'es le genre de mec, quand tu vas voir un match de foot, tu dis « Allez le foot !» au lieu d'encourager une équipe.
La dernière fois qu'on est allé à la Beaujoire, tu disais ça.
C'est vrai. Hyper drôle, putain.
Je serais très curieux de voir une revanche entre Oliveira et Makhachev, mais bon, vu comment Makhachev est active MDR et vu comment Oliveira a l'air de gagner, enfin gagne actuellement ses combats MDR, ça n'aura probablement pas lieu.
Surtout qu'il y a Dustin Poirier qui va arriver, il y a Arman Tsarukyan qui sera le prochain, va falloir un petit peu de temps.
Il faut vraiment une performance de monstre pour Oliveira pour qu'il obtienne son prochain combat, il faut vraiment qu'il termine très vite quoi.
Mais voilà, tout simplement, du coup, ce qu'on peut dire sur Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, combat extrêmement serré, extrêmement relevé, et extrêmement palpitant, hein, tout à fait. Deuxième petite pause musicale, on s'écoute Lucifer de Jay-Z et on revient pour la suite du débrief de l'UFC 300. A tout de suite.
Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer son of the morning,
I'm from the murder capital where we murder for capital.
Lucifer, Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Kanye, you did it again, you're a genius.
Lucifer, Lucifer son of the morning,
so you niggas change your attitude for they asking what happened to you. Lord forgive him, he got them dark forces in him, but he also got a righteous cause for sending them to murder me. So I gotta murder them first, emergency. Doctors performing procedures, Jesus. I ain't trying to be facetious, but vengeance is mine, said the Lord. You said it better than all. Leave niggas on death's door, breathing on respirators for killing my best four haters. On permanent high haters as I skate in the Maybach Benz. Fly this annihilation, bumping brown sugar by D'Angelo in Los Angeles, like an evangelist. I can introduce you to your maker, bring you closer to nature. Ashes after they cremate you bastards. Hope you've been reading your psalms and chapters, paying your tithes, being good Catholics. I'm coming.
Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer, dawn of the morning,
I'm from the murder capital, will he murder for capital?
Lucifer, Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer, dawn of the morning,
so you niggas change your attitude for they ask you what happened to this holy war. I wet y'all all with the holy water, spray from the heckler. Catch order, medic or the static shall cease to exist like a sabbatical. I throw a couple at you, take six. Spread love to all of my dead thugs. I pour out a little Louis to a head above. Yes, sir. And when I perish, the meek shall inherit the earth. Till that time is on and popping. Church, like Don Bishop, the fifth of Pong Cock Eva. Lift up your soul and give you the Holy Ghost. Please, I leave you with somebody's cathedral. But stunting like Evil Knievel, I let you see where that bright light leads you. The more you talk, the more you irking us, the more you gon' need memorial services. The Black Album, second verse is like devil's pie, say some dessert for us. Man, I gotta get my soul right, I gotta get these devils out my life. These cowards gonna make a nigga ride, they won't be happy till somebody dies. No, man, I gotta get my soul right, for I'm locked up for my whole life. Every time it seems it's all right. Let me get somebody want their soul to rise. I chase you off in the search. Dreams a hole in the 9 mm, the Bob's killer. Asking them why as my eyes fill up. These days I can't wake up with a dry pillow. Gone but not forgotten, homes I still feel you. So curse the day that birthed the bastard who caused your church mass. Reverse the crash, reverse the blast, and reverse the car. Reverse the day, and there you are, Bob Law. Lord forgive him, we all have sinned. But Bob's a good dude, please let him in. And if you feel in my heart that I long for revenge, please blame it on the son of the morning. Thanks again.
Terrible quand même.
On fait la même connerie.
On a recommencé. Allez, virgule.
L'équipe les plus professionnels.
Bagarre Club.
Je sais pas, enfin le mec de la technique il pourrait faire attention un petit peu quand même.
C'est comme Nora est pas là, c'est l'enfer. Nora, on revient vite. S'il te plaît, on revient vite.
Attends, alors ne calomnions pas, d'habitude je m'en sors hyper bien. C'est juste que là aujourd'hui c'est vraiment n'importe quoi.
Non mais c'est parce qu'en fait on parle toujours du UFC 300 entre nous, entre les pauvres.
Ah ouais,
parce que vraiment,
on a beaucoup de choses à dire. Là on vous épargne pas mal de small talk.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, on est de retour en direct sur Prune, c'est le Bagarre Club. Et du coup, on va un petit peu parler donc des autres combats de la soirée. Donc, on va y aller un petit peu pêle-mêle. On va moins s'étendre dessus parce que c'est des combats un petit peu plus mineurs. Le premier combat sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est l'étoile montante des poids moyens, Bonnie Call, qui cale une soumission au deuxième round contre Cody Brundage. On s'y attendait globalement.
Oui mais pas au deuxième round.
C'est-à-dire on s'attendait à voir Cody Brundage céder un peu plus tôt.
Oui. Tout le monde globalement pronostiquait une victoire de Bonnie Call au premier round parce qu'il n'est jamais allé au-delà du premier round et parce que généralement, quand il rentre dans la cage, c'est vraiment un rouleau compresseur. Soit il vous met KO, soit il vous soumet très vite. Et bon, comme on parle d'un double ou triple champion de lutte universitaire, il a vraiment une aisance justement à vous choper un bras ou une jambe et bref à vous emmener au sol et c'est terminé pour vous. Donc Moi, j'ai remarqué quand même pendant le premier round, et lui-même, la Bonnie Cole, on a parlé dans son entrevue d'après-combat, mais j'ai remarqué que justement, il n'avait pas l'air justement tout à fait sûr de son game plan. Il a déclaré avoir laissé pas mal d'opportunités, trop d'opportunités à son adversaire de s'en sortir. Donc, c'était pas une performance aussi dominante qu'on pouvait l'attendre de Bonnie Cole, mais bon, voilà, il a confirmé ce qu'on savait déjà. Enfin bon, on sait très bien qu'il est doué en lutte et qu'il trouve des soumissions, mais. Voilà, il a été fidèle à sa réputation sans avoir, je dirais, l'étincelle qu'il a eue lors de son dernier combat où il avait mis KO son adversaire en, je sais pas, une minute à peine, enfin bref.
Mais moi, justement, ce que tu dis, c'est que je trouve que ça démontre vraiment d'une certaine mentalité envers Bonnie Cole. Le mec, il a quand même une soumission début de deuxième round, on va dire, et il est quand même limite dégoûté de sa performance.
Oui.
Ça montre un petit peu la mentalité qu'il a, le mec. Il veut vraiment rouler sur tout le monde. Et s'il le fait pas, bah il est dégoûté. Et moi, je pense que c'est vraiment une mentalité de champion.
Ouais, tout à fait.
Tout simplement.
Mais surtout, je pense aussi que s'il est lucide, ce que j'imagine bien, mais je pense qu'il a conscience que, comment dire, ce genre de petite, entre guillemets, de petite erreur tactique, ça pardonnera pas au très haut niveau chez les poids moyens. Il y a Ramzat Chimaev qui fait partie de la catégorie maintenant. Il y a Brendan Allen. Il y a d'autres lutteurs, justement, qui sont très compétents, mais surtout, rien qu'au niveau du striking, d'autres choses, des petites erreurs comme ça de tactique, ça ne pardonnera pas. Donc je pense qu'il était également en colère vis-à-vis de ça.
Mais c'est bien, ça veut dire qu'il va travailler dessus, va apprendre.
Tout à fait, mais il est très prometteur en tout cas.
Tout à fait. Hugo, un petit mot sur Bonnie Cole.
Ah non, je suis désolé, je ne parle pas parce que je viens de retrouver la cote associée à Max Holloway et KO Justin Gaethje au cinquième round. C'était 45 contre 1, en décimale c'était 46. Bon, j'aurais parié 10 euros, je me serais fait 450 balles. Non, ne pariez pas, c'est très mauvais les paris, évidemment. Ne faites pas ça. Mais bon, j'ai un peu le seum.
Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire un petit peu sur
Bonnie Cole est très chaud, voilà.
Qui continue son ascension chez les poids moyens. On a hâte de le voir un petit peu se frotter au gratin de la catégorie. Ensuite, sur quel combat est-ce que vous voulez qu'on... Est-ce qu'on fait nos trentenaires préférés?
Les
quarantenaires, ouais.
Les Américains appellent ça un dogfight, un combat de chien. C'est pas très
valorisant
comme ça. Ouais. Mais c'est un combat très sanglant, très violent. Et là, c'était vraiment ça.
Bobby Green contre Jim Miller.
Ouais.
Ils ont tous les deux 35, 36 ans, un truc comme ça.
Deux vétérans, pas dire des légendes de la catégorie. Ouais,
75 combats à eux deux, enfin 75 victoires à eux deux, plus de 100 combats à eux deux, donc voilà, des vétérans tout simplement. Et oui, ils se sont mis sur la gueule.
Clairement.
Sportivement,
c'était pas terrible, mais bon.
C'était très divertissant.
Divertissant à regarder. Non. Bobby Green qui.
Donc Bobby Green qui remporte ce combat à la décision.
Qui a mené la plupart des échanges, toujours très verbal avec cet aspect de guerre psychologique vis-à-vis de ses adversaires. Il leur parle beaucoup dans la cage, il essaye de leur mettre la pression. Et c'était très très sanglant. Ouais. Je garde un souvenir vraiment rouge de ce combat.
Ah, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je pense à un truc, puisqu'on parle des combats un peu annexes. Fait assez surprenant, impressionnant, fait cool, c'est que aucun combattant n'a raté la pesée pour cette carte.
Oui, c'est vrai.
C'est très bien.
Ce qui arrive assez rarement. Il y a souvent un combattant dans les préliminaires précoces qui arrive avec 2-3 kilos de trop.
Je pense,
ça fait beaucoup.
Je pense, bien que la plupart du temps ce ne soit pas de leur faute, je pense que la pression d'être sur la carte d'un événement aussi gros a peut-être joué dans la préparation des combattants.
Je pense que tu rates la pesée. Tu pouvais dire adieu au bonus.
Ouais, c'est ça. Personne n'a pris l'événement à la légère, c'est ça qui est vraiment bien. Ouais. Est-ce qu'on parle quand même de Kayla Harrison?
Très impressionnante.
Oh, mais
très,
très
un combat qui posait beaucoup de questions.
Ouais, tout à fait, parce que Kayla Harrison, du coup, kickboxeuse, kickboxeuse.
Tout
hein.
à fait, oui.
Kayla Harrison, qui fait son premier combat à l'UFC.
Mais elle a un style de... Pardon, excusez-moi, je me rapproche. Elle a un style de lutteuse, surtout.
Oui.
Une ancienne kickboxeuse.
C'est une ancienne kickboxeuse. Monstre. C'est le mot qui me
vient. C'est vraiment ça. T'as raison.
C'est
une anomalie.
Physiquement, il y a une puissance qui se dégage d'elle qu'on n'a pas vue chez les femmes depuis Amanda Nunes, en fait.
En termes de puissance brute et de maîtrise,
elle est plus costaud que Max Holloway. Alors que Max Holloway était à deux catégories au-dessus, quoi. Tu vois,
voilà, donc Kayla Harrison qui réussit son entrée en matière par soumission, qui a fait une démonstration au sol alors que c'est
totalement.
Une kickboxeuse.
Oui.
Donc vraiment, on a hâte de voir la suite pour Kayla Harrison.
Qui prend la cinquième place chez les bantamweight.
En battant Holly Holm, du coup.
En battant Holly Holm, tout à fait. On a oublié de parler du co-main event. C'est honteux.
On le garde pour la fin, non? Moi je pensais qu'on le gardait pour la fin.
Yann Gionan, ouais.
Attends, on finit juste avec les autres.
Diego Lopez.
Mais attends, dans les préliminaires précoces, Jalen Turner et Renato Moicano. Le combat où on pensait que c'était terminé et en fait pas du
tout. C'est ça, Jalen Turner.
Call an ambulance, but not for me.
C'est ça. Jalen Turner a failli mettre KO Renato Moicano à la fin du premier round. Il a limite célébré.
Il est parti.
Moicano s'est relevé direct. L'arbitre n'a pas arrêté le combat. Et au retour du deuxième round, Renato Moicano met KO Jalen Turner.
Ce qui est dommage pour Jalen Turner parce que...
Mais écoute, à un moment, il faut aller jusqu'au bout. Tu penses que c'est fini? Bah non.
C'est du MMA, hein. T'as le droit de continuer à le frapper au sol tant que l'arbitre n'interrompt pas le combat.
Comme on dit au Parabellum Combat Club, no brain, no gain. Et là, fallait être intelligent et pas s'arrêter tant que c'est pas fini.
On parle de Diego Lopez, la pépite des poids plumes.
Ah, trop bien.
Voilà, qui gagne son combat en 1 minute 29 contre Sadiq Youssouf.
Pas grand chose à dire, hein. Il touche les morts, voilà.
Il l'a défoncé.
Ouais, non.
C'était un super résumé.
Mais par contre, Diego, s'il te plaît, change ta coiffure. Vraiment, change ta coiffure.
Tu mérites pas Diego Lopez. C'est justement parce qu'il a cette coiffure qu'il est si fort.
Terrible.
C'est son. Comment dire? C'est comme Conor McGregor quand il avait son petit chignon. C'est la coiffure qui donne de la force.
C'est comme les Geox, mais c'est des chaussures qui respirent.
Donc, Diego Lopez, faudra compter sur lui, du coup, chez les poids plumes, nouveau problème, comme on dit, comme on dit dans le jargon, tout simplement. Pêle-mêle, comme ça, les autres combats en entrée d'événement, Davinson Figueiredo qui confirme sa montée en poids coq, en soumettant Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, va falloir faire quelque chose, hein.
Cody Garbrandt, là,
il s'est retrouvé face à un lutteur. Enfin, je veux dire,
il a le droit de bosser sans jugement.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas un combat facile pour Cody Garbrandt de base. Bon, il était underdog, hein. Largement.
Davison
Figueiredo était favori à moins 310, ce qui est
Ça lui fait, en dehors d'un KO, ça lui fait je sais plus combien de défaites. Enfin, c'est.
Mais là, il est genre 6 défaites en 4 combats, en 6 combats, un truc comme ça. Il était sur 2 victoires consécutives, là, il retourne sur une défaite. Je pense mentalement, je pense pas qu'il va s'en relever. J'espère pour lui, mais je pense pas.
Je pense que là, il est sur une bonne dynamique. Il s'est retrouvé face à ce mec-là qui, du coup, était extrêmement fort en grappling. Je pense que ça peut. Je l'enterre pas. Ouais, honnêtement, je pense que ça peut bien se passer.
De fait, j'aimerais bien voir Figueiredo affronter Petriane, par exemple, prochainement. Ça pourrait être intéressant.
Ça pourrait être intéressant également. Dans la suite des combats, Jessica Andrade qui remporte à la décision contre Marina Rodriguez. Donc, performance maîtrisée, encore une fois.
Pas grand chose à dire.
Andrade en striking, c'est une valeur sûre. Ouais. Aljamain Sterling qui réussit sa montée en poids plume. Combat pas très palpitant, on va pas se mentir.
Il a fait le sac à dos.
Il a contrôlé au sol contre Calvin Kattar, qui est pas du tout.
Mais c'est son style, c'était ce qu'on attendait. Voilà.
Et du coup, on va quand même toucher deux mots sur la championne, Weili Zhang, championne des poids paille féminin, qui franchement est tombée sur une adversaire coriace.
Elle a pas démérité.
Yan Jeonan, qui a vraiment fait preuve de beaucoup de résilience contre la championne, qui a failli vraiment la soumettre à quelques reprises. Petit fait marquant, notamment à la fin du round 1. Weili Zhang a en étranglement Yan Jeonan. Yan Jeonan s'endort, mais vraiment au moment du gong, et elle se réveille à la pause, et du coup elle peut combattre, mais en fait s'il y avait 3 secondes de plus, fini.
Voilà. Elle dormait.
Là,
je ne sais pas ce qu'a fait l'arbitre. Je dis ça, c'était quand même très très limite. C'était vraiment à la limite. Je comprends un petit peu, mais
en fait, on peut dire que l'arbitre a eu raison quand on voit que derrière Yan Jeonan a livré 4 ans derrière
de bonnes factures. Incroyable qu'elle ait réussi à se relever de la sorte et à vraiment être aussi.
Elle n'a pas réussi à se relever au début. Elle a eu du mal à se relever.
Elle a quand même réussi à garder son gameplay en tête, et vraiment elle a bien rivalisé avec Jean, qui est une championne vraiment vraiment dingue.
Mais quand même, on sent quand même qu'il y a un cran au-dessus.
Ne s'est pas laissé faire. Elle a pris des coups très durs, mais elle s'en est sortie vraiment admirablement.
Ce que j'aime vraiment chez Jean, c'est qu'elle est vraiment très complète, quoi. Pas simplement en striking où elle connecte fort, elle a une sacrée puissance de frappe, mais même son grappling est très bon. Enfin.
En fait, tout simplement, elle a fait un combat de championne. C'est-à-dire que même quand tu es dominé, tu vas trouver les ressources, tu vas trouver, que ce soit techniquement, mentalement, physiquement, tu vas trouver les ressources pour aller gagner le combat et t'imposer en tant que la championne de la catégorie.
C'est tout à fait ça.
Par contre, Yan Jeonan, j'ai été très très impressionné parce que moi je sais plus quel
pronostic
on avait fait.
J'aimerais pas être ses prochains adversaires.
Ah oui, bah, non, ouais, parce oui. que elle tape fort. C'est impressionnant. Hein. Elle a vraiment de la dynamite dans les poings.
Et ben
c'était
voilà.
un peu à l'exprès. Non, j'abuse.
Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette UFC 300 et la petite teasing pour la prochaine émission. L'UFC 300, le show, c'est qu'on s'est poursuivi après du coup les combats avec Monsieur Dana White qui nous annonce
le retour d'un certain Irlandais,
de Conor McGregor qui affrontera Mike Chandler le 29 juin, enfin fin juin de cette année-là, en poids welter. On en parlera plus en détail lors de la prochaine émission. On fera aussi une petite émission un peu bilan, voilà ce qu'on peut tirer globalement de cette carte, qu'est-ce que ça dit de l'UFC de manière générale. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce soir, donc on vous laisse un petit peu sur ce petit teasing. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, donc même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @lebagarreclub. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Et
Attends, information importante. Les podcasts vont arriver sur Spotify et Apple Podcasts.
C'est ça, les derniers. Les 3-4
derniers.
Ouais, émissions,
les 4 derniers.
Il y a eu un
les
petit
4 creux. Avec celui d'aujourd'hui. Là.
Voilà, donc Hugo va se mettre dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut.